Joseph Mary, Eva. Chapitre 1, le festin. Sur la côte de Coromandel, non loin de Madras, dans les terres autrefois désertes, on trouve un paysage si beau que les voyageurs n'en ont jamais parlé, car les phrases leur manquent, et ils aiment mieux laisser dans l'un une omission qu'une injustice. M. Sonnera est le seul qui ait hasardé cette exclamation. « Que la nature indienne est belle dans la solitude de Tinnevelly !» Puis il a fait la statistique des factoreries de Madras. « J'ai sur mes devanciers un avantage considérable pour peindre ce paysage. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je ne le peindrais pas. » Voici donc mon tableau dont je garantis la ressemblance. Il y a un lac, bleu comme une immense cuve d'indigoterie, qui perce une infinité de petits golfes dans une longueur de 6 lieues. Sur 3 côtés, l'horizon de ce lac est fermé par une haute montagne et par des collines vertes en forme capricieuse, ressemblant à celles à une succession de ces deux dos gigantesques de dromadaires. Du côté de la plaine, le rivage est comme un vaste jardin de tulipiers jaunes, jalonnés par intervalles de hauts palmiers, les uns groupés étroitement comme les membres d'une famille bien unie, et les autres isolés comme des égoïstes ou des misanthropes qui fuient la société. De même que le lac a creusé des baies dans la terre, ainsi la terre, par imitation, a jeté dans le lac de petits promontoires aigus comme des aiguilles de clocher qui flotteraient sur l'eau. Ces terrains ambitieux sont couverts de touffes profondes de verdure ardente, où se mêlent les ébéniers, les nocléas, les caquiers, les érables, que la nature a prodigués pour favoriser les tigres qui veulent venir boire l'eau du lac la nuit sans être vus des pâles humains. Maintenant, si vous prenez la peine de regarder au pied de la montagne, vous trouverez un chatiram délicieux. Sur 4 colonnes d'érable, rappelant un peu l'ordre de Paestum, adoré à Londres et ne le font pas regretter. Sa toiture, fort élevée, laisse un vaste passage à la circulation de l'air. Son escalier de bois de santal à 22 marches, et la dernière se baigne dans le lac à côté d'un troupeau de jeunes et candides éléphants qui boivent l'eau et le soleil. Dans la position où vous êtes, le chatiram vous cache une ravissante maison de campagne, comme Adam la rêvait dans le paradis terrestre après sa faute quand la terre maudite se hérissa le chardon. Cette demeure voluptueuse appartenait en 1801 au plus riche négociant de Madras. Son nom était Mulusami. Il naquit indien et idolâtre, et il n'avait pas trop changé de religion en se faisant méthodiste pour épouser la plus belle hollandaise de Batavia, laquelle avait reçu, comme don d'amitié du riche Palmer, une dot de 1 million de piastres. Palmer aurait fait l'aumône au Pérou. Eva était le nom de la belle Hollandaise, épouse de mon Mulusami. À la date nébuleuse que j'ai citée plus haut, elle avait 24 ans. Si vous n'avez jamais été dans l'Inde, vous ne pouvez vous faire une idée de la fascination qu'exerce une jeune femme du beau sang européen dans ces climats qui brûlent le corps et l'âme. Malheur à l'étranger qui venait s'asseoir un instant sous le péristyle de la maison d'Eva pour admirer le hag de Tinnevelly. Un des nombreux domestiques de l'Indien avait ordre de l'inviter à dîner, et ce repas, accepté avec tant de joie, empoisonnait moralement le pauvre voyageur. Il voyait Eva et il oubliait son pays, sa famille et même sa femme et ses enfants s'il en avait. Le mari d'Eva était à cet âge heureux où les passions doivent laisser l'homme en repos. D'ailleurs, on disait qu'il ne connaissait pas la jalousie, vice des pays froids, ignorés sur la côte de Coromandel. Aussi, dans sa richesse, sa solitude et ses ennuis, il ne demandait pas mieux que d'avoir toujours nombreuses compagnies à sa maison. Mais cette société de voyageurs, de savants, d'artistes, de parasites des quatre parties du monde, était toute composée de jeunes gens épris de sa femme, et se surveillant si bien les uns les autres, que le mari pouvait fermer les yeux et compter en pleine confiance sur la perpétuité de son honneur conjugal. Si Pénélope n'avait eu qu'un seul poursuivant, Ulysse aurait été Ménélas. Elle eut 100 amoureux et elle garda 20 ans sa vertu, nuit et jour, sa broderie à la main. Evan ne comptait que 20 poursuivants et elle se plaignait quelquefois à son mari de ce qu'elle n'avait pas autant de bonheur que Pénélope. Le sage indien lui disait alors: Charme de mes yeux, belle Eva, nous n'avons que 20 couverts à notre table et 20 chambres dans notre maison. Règle-toi là-dessus. En ce temps-là, parut sur le lac de Tinnevelly un jeune savant que M. de Lacépède avait envoyé dans l'Inde pour chercher un turaco blanc, Turacus albus. Le Muséum naturel de Paris, malgré ses richesses universelles, était incomplet. Il lui manquait cet oiseau dont Serveus avait porté le dessin à Londres. M. de Lacépède n'en dormait pas. Le voyageur envoyé à la découverte du Turaco blanc se nommait Gabriel de Nancy. Il avait des lettres de crédit pour tous les comptoirs de l'Inde et des lettres de recommandation pour tous les savants. Les dernières lettres restèrent en portefeuille, mais les premières n'y firent pas long séjour. Il avait déjà dépensé 60 000 francs des deniers des contribuables et le Turaco blanc n'était pas découvert. Ayant épuisé quelques presqu'îles, 3 continents, 2 côtés, une foule d'archipels, Gabriel attaqua le Tinnevelly. Monsieur de Lacépède attendait toujours l'oiseau, la paille à la main. Le soleil, après avoir brûlé l'Inde, descendait sur l'océan lorsque Gabriel arriva devant la demeure de Monoussamy. Eva était assise sous un manguier et elle écoutait nonchalamment les doux propos de ses adorateurs rangés en cercle autour d'elle. L'époux tournait les épaules à la société et, par vieille habitude d'Indien, il comptait les grains du chapelet nommé potage. Gabriel, quoique savant, avait un costume élégant, une figure spirituelle, et il montait fort bien à cheval. Deux nègres affranchis, et plus esclaves que jamais, prirent les chevaux de Gabriel et de son domestique. Monoussamy se leva et dit au jeune Français: Soyez le bienvenu dans mes domaines, que mon lac vous soit doux. Les adorateurs d'Eva furent un assez triste accueil à Gabriel. Eva salua le nouvel arrivant avec son éventail de plumes de Bengali. Gabriel exposa l'objet de sa mission scientifique en peu de mots. Monoussamy fit un geste qui désignait les bois et les montagnes du nord et du midi, comme s'il avait voulu lui dire qu'il mettait ses domaines à sa disposition. On sonna le souper. Les 20 adorateurs se levèrent comme un seul homme pour offrir 20 bras à la belle épouse qui prit le bras de son mari, selon l'usage indien. La salle à manger frappa Gabrielle. Elle était toute à claire-voie et décorée de colonnettes en bois de santal, style pagode. Aux 4 angles, 4 fontaines coulaient dans des bassins de granit d'Elora. 12 nègres, juchés sur des piédestaux d'ébénier, agitaient dans l'air de larges éventails de plumes de paon. Les sièges des convives étaient formés de bahuètes de nocléa. Des masses fraîches et veloutées de feuilles d'acanthe servaient d'escabeaux. Les noix de métal fumaient dans une cassolette d'ambergris, et aux deux bouts de la table jaillissaient, de la gueule de deux dragons de porcelaine japonaise, d'immenses panaches de fleurs et de rameaux d'arbres odorants, des aigrettes où s'entremêlaient tous les caprices de nuances et de parfums de la puissante nature indienne. Le spondias, surnommé la fleur de cythère, le wampi, originaire de la Chine, le lavantera du Cachemire, le rimma, le falset, le malsana, qui secoue ses fleurs rondes et jaunes comme des grelots d'or. Mais rien ne décorait cette salle de festin comme la jeune Eva, la maîtresse de la maison. Elle embaumait, elle éclairait, elle ravissait les convives. On ne regardait qu'elle. Elle ne regardait rien. Cita, la déesse, épouse du dieu bleu, assise nonchalamment sous un manguier, Lakmé, la déesse du plaisir, née dans le jardin Mandana, ne sont pas plus belles qu'Eva dans le temple de Tentaoli, disait l'Indien Mirpour, négociant retiré des affaires, et l'une des meilleures maisons de commerce de Madras. Et son voisin, M. Goulab, ex-banquier à Calcutta et natif du village de Kioula, lui disait: Oh, si j'étais le dieu bleu, je m'incarnerais pour elle une dixième fois. Et les yeux noirs de Goulab lançaient les flammes d'une lueur sinistre. Le jeune Français Gabriel disait à son voisin, Sir Edward Sclerps de Londres: Oh, si je pouvais emmener cette femme à Paris. Seulement pour la faire figurer dans Fernand Cortès, je ferai la fortune de Monsieur de Jouy. Le mari d'Eva mangeait comme un tigre à jeun et buvait comme boit la plaine altérée de Tchoultry quand il pleut après une sécheresse de 3 étés. Les autres convives ne disaient rien et ils avalaient des soupirs. On servait des plats étranges et à profusion. Les vins de Constance, de Lalia, de Kerana coulaient à flots dans ces belles coupes que taille le jemidar sur la roche de Chlaokomok. Les savants buvaient comme des ignorants. Eva mangeait du bout des lèvres, à la pointe d'une aiguille d'or, des parcelles d'un jambon de Labiata, l'ours superbe qui désole l'île de Panay. Elle semblait faire une concession à l'humaine nature pour laisser douter encore de sa divinité. Il fallait voir avec quel geste de nonchalance dédaigneuse elle refusait une brochette de troupial rouge ou une aile de Pomerops dont la queue a 12 plumes. Par intervalle, elle aspirait quelques gouttes de cette boisson que les Indiens composent avec du poivre, du tamarin et du jus de wampi. Alors, tous les yeux s'attachaient sur son bras, qui se repliait comme un cou de cygne, en agitant les grelots de pierreries d'un bracelet d'ambre jaune sur une coupe de lapis-lazuli. Et toutes les mains restaient immobiles, la fourchette levée sur les assiettes chinoises, de peur que les regards ne laissassent échapper une seule des grâces adorables qui éclataient en ce moment au bout de ses doigts, aux fossettes de ses joues et même dans les plis du crêpe nankin noué sur le corsage de son sari indien. L'époux imperturbable affectait de ne pas regarder sa femme, et cette impudence de bonheur irritait les convives. Monoussamy semblait leur dire: Je vous permets de la dévorer des yeux à mon festin. Le jeune Français Gabriel, lorsque la conversation devenait générale, disait à son voisin: Mais dans quelle espèce classez-vous ce mari indien? Ben, il y a 3 mois que je cherche son chapitre dans l'histoire naturelle de Solra et je ne le trouve pas, répondait Sir Edward Sclerps. Croyez-vous qu'il aime sa femme? Peut-être, non, peut-être comme tous les convives à la fois. Et croyez-vous que sa femme l'aime? Oh non, sa femme n'aime personne de la société, c'est positif. Mais puisqu'il faut qu'à son âge et dans ce climat, elle aime quelqu'un, Nous sommes désespérés d'admettre que ce quelqu'un est son mari. C'est désolant, disait Gabriel, mais peut-on aimer un homme qui a le teint bronzé comme la porte d'une pagode, qui a une mâchoire de dents d'éléphant, des lèvres de mandrille, des yeux de tigre noir, un cou de rhinocéros. Un homme qui sait composer son corps en volant quelque chose à chacun des monstres de l'Asie. Non, c'est impossible, cette femme n'aime pas son époux. Oh, les femmes, disait Clerps mélancoliquement. Mais alors donc, y pensez-vous, monsieur Clerps? Si cet Indien venait à Paris, dans le monde, avec madame, au bout de 3 jours, on lui ferait voir qu'un Indien est un sot. Ben, c'est possible, mais il n'ira pas à Paris. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil, mon voisin? Oh, donnez, monsieur Clerps. Bien, vous pouvez vous sauver encore, il en est temps. Demain, à la pointe du jour, remontez à cheval et partez. Non, non, je ne partirai pas, j'attends une lettre de monsieur de la Cépède que le Telaga de Madras doit m'apporter ici. Les intérêts de la science avant tout. Eh, mon Dieu, moi aussi, je suis venu explorer le Tinnevelly dans les intérêts de la science. La Société Royale de Londres m'entretient à grands frais pour découvrir un ouvrage inédit sur la religion des Malabars dont parle le Camartique. J'ai déjà dévoré 2000 livres, n'ai rien découvert. En ce moment, je suis censé me promener sur les rives du fleuve Triblicam, ayant sous les pieds du sable à cuire les œufs d'autruche, et sur la tête du soleil à rôtir ma cervelle sous mon crâne. Et je mange au frais à cette table depuis 3 mois. Oui, je rougis de ma lâcheté. J'attends ici des lettres de Trankbar, on attend toujours des lettres dans ce monde. « Ah, vraiment, monsieur Clerc, je n'ai jamais vu une femme plus séduisante. Mais sa beauté a tant une expression dans toutes les langues. Elle a des cheveux d'un noir indien qui ont des reflets adorables et un luxe tropical de végétation. Elle a des yeux d'un velours limpide qui rayonnent parfois comme 2 flammes de Bengale sur l'ivoire rosé des joues. Elle a surtout... Arrêtez-vous là, mon cher monsieur, le nouveau venu. Vous en savez déjà trop pour votre malheur. Suivez un conseil d'ami, partez. Oh, c'est impossible, monsieur Clerps. Il faut que je côtoie le lac de Tivoli. Et vous ne côtoierez rien. Même monsieur de la Cépède. Oh, monsieur de la Cépède est à 3 000 lieues d'ici. Et vous vous moquez de lui et de tous les oiseaux empaillés. Monsieur Clerps, avez-vous, comme moi, surpris au passage le sourire qu'elle a lancé à son mari? Oui, certainement. Mais ce sourire m'a fait frémir, je ne sais pas pourquoi. Ah! Quel sourire! J'ai cru voir le soleil se lever assez lent sur un banc de perles et d'un de corail. Mais est-ce qu'elle aimerait vraiment ce mari, monsieur Clerps? Et vous vous ferez à vous-même cette question 20 fois le jour et vous ne vous répondrez jamais. Oh mon Dieu, à Paris, un mari de cette allure, oh! Mon cher monsieur Gabriel, si tous les maris étaient de la trempe de cet Indien, il n'y aurait pas tant de malheur en vaudeville. Il se fait respecter du lieu à la ronde, celui-là. Je vais vous citer ces 2 derniers traits. L'autre jour, au bord du lac, il tua d'un coup de pistolet à 50 pas un indri de la grosseur d'un écureuil. L'animal resta sur la branche du kaki où il mangeait les fruits rouges dont il est friand. « Ah, vous ne l'avez pas tué !» lui dit son ex-associé Goulab en ricanant. Monoussami fit un de ses sourires à la Bouddha Soura, un sourire du mauvais esprit des nuits. Excusez mon érudition. Puis d'abord, il s'élança comme un tigre du Bengale sur l'arbre pour saisir l'indri mort et le montrer à Goulab. Mais au moment où sa main s'allongeait à l'extrémité du rameau flottant, l'animal tomba dans le lac. Monoussami se suspendit à la branche d'une main, de l'autre il ramassa l'indri sur le lac Et se repliant sur lui-même comme un serpent, il remonta sur l'arbre sans avoir mouillé un pli de son pantalon blanc. Un clown à notre théâtre d'Ashley gagnerait 100 livres par soir pour exécuter ce tour. Voici l'autre fait. Hier, le père de ce troupeau d'éléphants que vous avez vu sur les bords du lac donna de grandes inquiétudes à toute notre société. Ce monstre fut atteint tout à coup d'un violent paroxysme. Il s'avança vers nous, la trompe levée, les oreilles tendues. Il mugissait comme un volcan avant l'éruption. La belle Eva poussa un cri de terreur. Munosami coupa tranquillement une forte tige d'aloès, comme vous couperiez un chalumeau de riz, et se précipitant sur l'éléphant, il le força de prendre un bain dans le lac, comme s'il eût été un caniche. Allez maintenant plaisanter avec des maris de ce genre-là, quand même vous seriez éléphant. L'Indien Goulab, qui est fou d'Eva, et qui connaît Munosami mieux que personne, tremble comme la feuille du cassier à l'idée de réussir dans ses amours. L'autre soir, un de ses convives me disait en pâlissant « Je suis un homme perdu, je crois qu'Eva m'a souri. » « Mais quel diable de conte bleu me faites-vous là ?» dit Gabriel. « Et quel jeu étrange jouez-vous donc tous ici ? Vous êtes 20 vous cotiser pour faire la cour à une femme et pour trembler devant son mari, mais... C'est de l'Indien tout pur, il comprend rien. Ah, monsieur Gabriel, si vous croyez trouver dans le Timelvelli les mœurs et les usages de la vie parisienne, vous êtes dans une grave erreur. Vous avez changé de planète. Les Parisiens sont singuliers. Ils voudraient retrouver partout le boulevard de Gand, les salons de la Chaussée d'Antin et les maris de Molière. Eh mon Dieu! Si l'East ou West India s'habillait et partait à l'instar de Paris, autant vaudrait rester chez soi, au coin de son feu. Ce serait une grande économie de bœuf salé, de tempêtes, de naufrages et de maux de cœur. En ce moment, la conversation, excitée par les boissons du tropique, devint générale et l'Indien même parla. Écoutez ce qu'on dit autour de vous, monsieur Gabriel, dit Klerps. Et vous verrez que vous n'êtes pas dans un hôtel de la rue de Provence ou dans un castel normand. En effet, la conversation était sortie complètement des habitudes nauséabondes de cette vie absurde et constitutionnelle qu'on mène à Londres et à Paris. Il semblait que chacun racontait un rêve, une histoire qu'il s'attribuait et qui ne pouvait appartenir qu'aux personnages des tapisseries chinoises ou aux bas-reliefs des temples souterrains d'Elora. Quoique les convives parlassent tous anglais, du milieu de cette langue sourde et si anguleuse, à cause de ces doubles V, s'élevaient à chaque instant des syllabes, des belles appellations indiennes, harmonieuses, comme les désinences du grec et du latin. Quelquefois, le bruit des pas s'éteignait subitement, car toutes les oreilles s'ouvraient pour recueillir la mélodie qui s'échappait des lèvres de la reine du festin. Eva contait un épisode de son avance amoureuse et aventureuse. Tantôt, c'était un combat de buffles et de tigres que son protecteur palmaire lui avait ménagé à grands frais pour l'amuser un instant. Tantôt, elle parlait de la merveilleuse fête de son mariage, lorsque palmaire changea une montagne en volcan d'artifice, versa toute une indigoterie sur une forêt d'érable et des beignets élevés en bûcher jusqu'aux nues, et l'incendia pour parfumer l'air à 30 000 à la ronde et faire luire dans la nuit un jour bleu sur le lac et les collines de Timelvelly. Elle disait aussi le galant caprice de l'Indien, son mari, qui, après avoir semé l'or pour enlever à la côte de Commandel tous ces pigeons blancs et verts, les plus beaux pigeons du monde, leur fit attacher aux pattes des clochettes d'argent, selon l'usage indien, et les fit échapper comme un nuage harmonieux par le kiosque de sa chambre nuptiale. Les nouveaux venus à ce festin, à quelque nation qu'ils appartinssent, comprenaient que l'Asie seule avait été de tout temps le pays de la fière opulence, depuis Darius jusqu'à Palmer, et que partout ailleurs la richesse même du millionnaire est étriquée et liardeuse. Qu'elle s'emprisonne dans les sépulcres numérotés de ces villes, qu'elle peinte à la détrempe de la pluie de ces fêtes de campagne, faites sablées, peignées et tirées au cordeau avec le compas de l'ennui. Que Northumberland à Londres et Rothschild à Paris croient être arrivés à l'apogée du faste lorsqu'ils ont lancé une meute de 300 chiens aboyeurs à la piste d'un renard, ou qu'ils ont écroué dans une bicoque de la chaussée d'Antin, pleine de sueur au-dedans, transie de pluie ou de neige au dehors, 1000 pauvres invités qui entendent un duo bouffe en s'écrasant mutuellement dans les orteils dans des souliers de satin. L'opulence n'a jamais été comprise que dans ces régions splendides où le riche sait faire avec le soleil un magnifique échange de rayons et d'or. Lorsque le dessert pyramidal cueilli dans les vergers de l'Inde vint embaumer la nappe, Mounoussami se permit un sourire et dit « Demain matin, vous serez prêts à l'aube, milord, mes convives, tous à cheval, et je vous recommande de choisir de bons chevaux. » « Mille remerciements, Naba Mounoussami, vous êtes grand comme Aurangzeb, premier roi marathe, » s'écria l'Indien Goulab, qui ressemblait à un éléphant déguisé en homme et mugissant l'amour. « De quoi le remercie-t-il, ce monsieur ?» demanda Gabriel à Clerps. « Mounoussami a tenu sa parole, » répondit Clerps. « Il nous avait promis depuis 2 mois une chasse pour demain, et nous l'aurons. »« Une chasse, mais à quoi chassez-vous ?»« Ah, au tigre, nous ne connaissons pas d'autre gibier ici. » « Monsieur Gabriel, » dit Mounoussami d'un bout de la table à l'autre, et d'une voix qui vibrait comme un tam-tam. « Monsieur Gabriel, êtes-vous sûr de votre cheval ?»« Oui, » répondit Gabriel à tout hasard. Et il ajouta, tout bas, « Mon cheval n'est pas plus fort que sur les tiques que moi. » L'Indien fit un signe de tête, et haussant la voix, il ajouta, « Mes amis, à la dernière étoile qui se couche sur le mont de Galaam, nous partirons. Mes écuries seront ouvertes toute la nuit. Ceux qui ne se fient pas à leurs chevaux choisiront parmi les miens. Maintenant, à votre liberté, mes amis. » Il se leva et tous les convives se levèrent. Eva, debout et nonchalamment appuyée au bras de son mari, distribua une 20aine de sourires à toute la société. Chacun savoura le sien, il n'eut pas de jaloux. Clerps et Gabriel sortirent les derniers de la salle du festin. Gabriel suivait langoureusement des yeux la séduisante étrangère qui passait sous des arches de méfliers du Japon et lutinait avec leurs belles fleurs flottant sur son visage et ses épaules. Son mari lui lançait des regards de lion amoureux, des regards qui faisaient trembler les hommes. Les deux Indiens, Goulab et Mirpour, escortant de près les deux époux, essayaient de continuer la conversation du repas. Mais le maître, sans se retourner, ne leur jetait par-dessus sa tête que des monosyllabes secs et désespérants. Les autres convives se dispersaient par groupes selon leurs habitudes et leurs amitiés. « Et vous êtes un homme perdu, » dit Clerps à Gabriel. « Ils ont tous commencé comme vous, et Circé les a changés tous en pourceaux. Il est temps encore de vous sauver lorsqu'il vous reste un peu de forme humaine, et sauvez-vous. Demain, quand vous regarderez comme Narcisse au miroir du lac, vous serez tenté de manger des glas et de prendre vos 2 mains pour 2 pieds. » L'arrivée du Telanga, ou facteur de la poste de Madras, suspendit le conseil amical de Clerps. Le messager indien laissa tomber le bâton aux plaques de fer flottantes qui éloignent le terrible serpent Cobra Capel et distribua ses lettres enfermées dans une boîte de fer blanc. Il y en avait une pour Gabriel. Monsieur de Lacépède lui envoyait le rapport qu'il avait lu à l'Académie des sciences et qui se terminait ainsi. Tout nous fait espérer que les efforts de notre jeune et savant voyageur Gabriel de Nancy seront couronnés de succès. Nous aurons bientôt un Turracus albus à montrer à la jalouse Albion et la plus belle collection ornithologique dont l'Europe sonore ne sera plus déparée par une lacune indigne du muséum français. « c'est bon, » dit Gabriel, qui s'était mis à l'écart pour lire sa lettre. Il chercha Klebs, mais il avait disparu. Resté seul, il s'appuya contre un pilier du Chatiram et se soumit à un examen. Ce qu'il aperçut au fond de son âme le fit trembler. C'était un amour chauffé à 40 degrés et au mur. « Au bout de quelques heures, j'en suis donc là !» s'écria-t-il mentalement. « Mais comment finissent les amours qui débutent ainsi ?» Et il froissa la lettre de M. Lacépède dans ses mains. Autour de lui, les hommes avaient fait silence, mais la nature était pleine du fracas solennel des nuits de l'Inde. Sous le ciel étoilé de Tinnevelly, tout prend des dimensions colossales. Dans nos campagnes d'Europe, il y a des champs de grillons sous les herbes et des croassements sous les roseaux des marais. Mais dans ce coin de l'Inde, les nuits retentissent du rugissement des tigres qui se disputent l'abreuvoir. Ce sont les grenouilles du lac de Tinnevelly. Oui, se dit Gabriel, cette nature doit donner un amour puissant comme elle. Un amour qui éclate et grandit dans une nuit comme la tige de l'aloès. Je chasserai le tigre demain et la tigresse au retour. En rentrant dans la maison, il remarqua les deux Indiens Goulab et Mirpour qui se parlaient mystérieusement. Chapitre 2 La chasse au tigre. À l'heure où les Bengalis s'éveillent et chantent sous la haute feuille des Tenlamazan, 12 péons à cheval et la carabine en bandoulière étaient déjà échelonnés sur la route déserte qui mène à la montagne de Goala. Les chasseurs européens arrivèrent ensuite, tous armés comme des forteresses et vêtus de blanc. Puis les deux Indiens, Goulab et Mispour, le dernier venu, Fumunusami. À la clarté des candélabres qui brûlaient sur la terrasse de l'habitation, Gabriel ne reconnut qu'à peine l'heureux époux d'Eva, tant il était changé à son avantage. Mounoussami avait pris le costume de Kouwera, le dieu des richesses. Il était nu jusqu'à la ceinture, et son pantalon de cachemire rouge, semé de fleurs, tombait en se rétrécissant sur la cheville que pressait un anneau d'or. Il montait aussi, comme Kouwera, un cheval blanc d'ivoire, dont l'extrémité de la queue avait une teinte écarlate et qui agitait 3 colliers de perles à son poitrail. L'Indien et le cheval semblaient ne composer qu'un seul être lorsqu'ils passèrent devant la troupe des chasseurs. Le cavalier emportait son cheval à la pointe de ses genoux et laissant flotter la bride rouge comme un ornement inutile, il agitait d'une main sa carabine et de l'autre, il jetait des pièces d'or aux mendiants, nommés Vingadasan, qui apaisent par leurs prières les Shaktis, divinités terribles redoutées des chasseurs indiens. Le chef des péons distribua aussi à une provision de feuilles de bétel mêlées avec la noix d'arec et saupoudrées avec de la chaux de coquillage. Les péons mâchent cette drogue comme nos marins le tabac. Un porteur d'eau du Gange passa en criant « Gangai Tirtham !» les chasseurs indiens restaient fidèles au culte de Siva et dont le front était marqué de la poudre blanche, trempèrent leurs cheveux et leurs doigts dans l'eau à portée du fleuve Saint et regardèrent de travers leur maître apostat qui ne touchait pas l'eau du Gange. Nounousabi ne remarqua pas cet incident. Enfin, le fauconnier donna le signal du départ au son du ridoudi, espèce de tambour qu'on bat avec une seule baguette, et comme un vol d'hippogriffe, les chasseurs s'élancèrent du lac vers les montagnes du nord. Quand l'aurore versa dans le ciel ses teintes safranées, la caravane modéra l'ardeur de sa course et les chevaux allèrent le pas. Un silence profond régnait dans ces solitudes où rien n'annonçait le passage de l'homme. Le velours épais des hauts gazons amortissait même le bruit des pieds des chevaux. C'était en ce moment un spectacle magnifique. 40 cavaliers, muets comme des statues équestres, traversaient une prairie vierge, tout émaillée de fleurs agrestes que la flore indienne ne mentionne pas. En tête se pavanait gracieusement le mari d'Eva, qui ressemblait à Vishnu visitant ses pagodes. Les 12 péons l'escortaient, tous coiffés du turban rouge, la lèvre chargée de la moustache noire, la carabine au dos, la peau de tigre flottant sur le cheval. Les voyageurs et les savants européens fermaient la marche, chevauchant deux à deux et jetant par intervalles quelques regards en arrière pour découvrir le lointain et bienheureux horizon où dormait, sous un dôme de palmiers, la belle et blanche reine du Tinnevelly. En sa qualité de français et de savant, Gabriel ne se gabonna pas longtemps de ce silence forcé qui était une des rigueurs de cette terrible chasse. Il se rapprocha, jambe contre jambe, de son ami de la veille, le philosophe Kleaps, et engagea une conversation à la sourdine avec lui. « Ma parole d'honneur, dit-il, il faut être fou comme ce mari de pagode, pour quitter sa femme et courir après un tigre fabuleux. Quant à moi, je ne crois pas au tigre, à moins qu'il ne soit dans des cages ou empaillé. Ce que je vois de plus clair dans cette chasse, c'est un soleil qui se lève là-bas sur un rocher noir et qui va nous brûler la cervelle avant midi. Mon cher monsieur Kleaps, je suis tenté de battre en retraite. Voulez-vous retourner avec moi à l'habitation du lac ?» Y pensez-vous, mon cher monsieur, mais vous oseriez donner votre démission de soldat en face de l'ennemi? Un Français? Oh, que dirait le Madras Review? Mais quand l'ennemi n'existe pas, il n'y a pas de déshonneur à se retirer devant lui. Oui, cela est vrai, mon cher monsieur Gabriel, mais ici, l'ennemi existe, croyez-le bien. Regardez Mounoussami qui tient sa carabine en arrêt. Nous sommes dans les tigres jusqu'au cou. Cette prairie est émaillée de tigres, je le crains. Bon, je vous crois, Sir Claps, mais je comptais si peu sur le gibier que je n'ai pas chargé ma carabine et mes pistolets d'arçon. Avez-vous de la poudre des balles? Oui, voici ma provision, prenez, et ne mettez pas une charge de touraco. Oh, voyez, c'est un noir, une charge affreuse. Oh, je crains plus pour ma joue que pour le tigre. Et là, je suis obligé de bourrer mes armes avec une moitié de l'aide de monsieur de la Cépède. Si le journal des sciences savait cela. Eh bien, c'est bien, vous voilà prêt, monsieur Gabriel, le tigre peut venir. Mais encore une fois, sœur Edouard, concevez-vous cette rage, monsieur Mounoussami? Certainement, je la conçois. Cet Indien est un fin drôle qui a un projet et qui ne serait pas fâché de donner en pâture au tigre une brochette de quelques amoureux de sa femme. Il travaille à cela en ce moment. Mais je connais des gens qui sont encore plus fins que lui. Vraiment, sœur Edouard? Chut! Parlons beaucoup plus bas, monsieur Gabriel. Il y a des mystères qui chevauchent avec nous. Vous êtes le dernier venu, vous ne savez rien. Je suis des anciens, moi. Il y a des mystères, Sir Edward. Eh, cela vous étonne. Mais il y en a partout, des mystères. Dans nos pays froids, où le soleil ne brille que par son absence, il y a de petits mystères de boudoir et de coin du feu qui sont clairs comme le jour et qui se ressemblent tous. Et dans ces régions splendides et ardentes, il y a des mystères ténébreux que la passion invente et qui ne se ressemblent pas. Ah, vous ouvrez de grands yeux, monsieur Gabriel. Quand vous les ouvrirez à l'avantage, vous ne verriez rien. Oh, Sir Edward, vous piquez singulièrement ma curiosité avec vos énigmes. Oh, vous en trouverez bientôt le mot vous-même, et vous m'épargnerez une indiscrétion. Ben, il faut vous dire, Sir Edward, que je n'ai jamais deviné une énigme de ma vie. Bien, vous commencez aujourd'hui. Oh, un peu de complaisance, Sir Edward Claps, mettez-moi sur la voie. Et vous y êtes, mon cher compagnon, vous y êtes à cheval. Dites-moi, que voyez-vous autour de vous? Un désert et des cavaliers. C'est tout? Oui, me semble, Sir Edward Clubb, c'est tout. Et vous ne voyez pas qu'il y a des passions ardentes, inexorables, qui rugissent autour d'un homme? Vous ne voyez pas que les tigres ne sont pas ceux que nous cherchons? Non, je ne vois pas cela. Oh, mon français, volage et léger, vous avez étudié le cœur de l'homme dans Corneille et la Bruyère, n'est-ce pas? Quel diable de question me faites-vous là, Sir Edward? Oui, mon cher compagnon, nous avons, vous à Paris et nous à Londres, deux ou trois observateurs à lunettes qui ont étudié le cœur de l'homme dans le département de la Seine et dans le comté de Middlesex, et qui ne se sont jamais doutés que le monde était habité, au-delà de Montmartre et d'Hampstead, par des millions de cœurs humains qui ne ressemblent nullement à ceux qu'ils avaient étudiés dans le Misanthrope ou le Scandal School. Le sot qui a dit Tutto il mondo è fatto come nostra famiglia était un Italien paralytique de Florence, qui n'a jamais quitté son troisième étage de la place du Marché Neuf. À la bonne heure, Sir Edward Scraps, mais où voulez-vous donc en arriver avec vos éternelles préfaces? Bien, je veux arriver à plusieurs choses, mon cher monsieur. Avant tout, je vais vous prouver que dans cet ouragan d'amour qui mugit autour d'Eva, je suis le seul qui garde son sang-froid et son cœur libre. Hier, je vous ai trompé. Je ne suis pas amoureux. Vous n'êtes pas amoureux? Je ne le suis jamais. C'est mon principe. J'ai quitté Londres parce que Caddison m'ennuyait avec son livre d'observation, qui n'observe rien. J'ai voulu étudier le cœur humain dans l'Asie indienne, monde à part, où les fleurs sont des arbres, où les canaux sont des fleuves, où les fleuves sont des mers. Les fontaines des cataractes, les chiens des lions, les chats des tigres, les chevaux des éléphants. Le hasard m'a poussé dans l'habitation de ce nabab, et j'y vois représenter depuis 3 mois une comédie auprès de laquelle le misanthrope est l'alphabet de l'intrigue et de l'observation. Chez nous, avec nos visages blancs, rasés et grêles, nous trahissons à chaque instant nos petites luttes intérieures. Mais ici, avec leurs faces d'airain, les hommes se dérobent à l'exploitation de l'œil le plus intelligent. Il n'y a jamais un pli sur leur chair de métal. Je suis obligé d'être sorcier pour deviner une seule parole de mon voisin. Aussi, quel triomphe lorsque je surprends une pensée sous ces épidermes de bronze. Je me voterais volontiers une statue et des autels. Gabriel fit un signe d'impatience très significatif, et Clerps, s'apercevant que ces longs préambules fatiguaient son interlocuteur, parla plus clairement. Oh, je vois, poursuivit-il, je vois, mon cher compagnon, que vous êtes un de ces hommes qui ne devinent rien. Le temps presse, il faut vous faire toucher les choses du doigt. Dans un instant, peut-être, je puis avoir besoin de votre courage et de votre bras. Ben, ceci est clair, Sir Edward Clamps, le comptez sur moi. Oh, le danger n'est pas pour ma tête. Il ne menace que l'Indien, notre amphitryon. Gabriel arma sa carabine et ses pistolets et se raffermit sur ses étriers. « Bon, très cher compagnon, poursuivit Clamps mystérieusement, Mounoussami joue depuis 3 mois une partie d'échecs avec Goulab et Micpour. Et c'est d'aujourd'hui qu'il doit être mat. De part et d'autre, les pièces sont habilement poussées. Je suis leur jeu et je juge les coups. Ils veulent assassiner le mari d'Eva. Non, vous n'y êtes pas, ils ne veulent pas l'assassiner. Ils sont trop religieux, trop lâches, trop fins pour verser du sang à la mode des Européens qui se font empoigner sottement par des procureurs du roi. Ils ont livré Mounoussami aux tigres et les tigres ne craignent ni les cours d'assises ni l'échafaud. Et les 20 péons qui lui servent de garde du corps, et nous, nous ferons ce que nous pourrons. Quant aux 20 péons, ils ne feront rien. Ils sont vendus à Goulab. Ils appartiennent comme lui à la secte intolérante de Shiva. Ils ne pardonneront pas son apostasie à Mounoussami. Et Mounoussami connaît-il tous ces horribles projets? Le rusé coquin les soupçonne, mais il veut les voir s'accomplir à ses risques et périls. D'ailleurs, il compte sur son courage, sur sa force, sur son cheval. 20 fois, j'ai ouvert la bouche pour lui faire part de mes observations, mais il me l'aurait fermé avec ses mains de bronze. Je connais mon Indien. Allez, maintenant, assez causé, l'œil au tigre, qu'ils aient 4 pattes ou 2 pieds. Le paysage qui s'étalait en ce moment devant la caravane était plein de grâce et de fraîcheur. Il était impossible qu'une pensée de mort et de sang osa s'élever au milieu de cette nature virginale et tranquille qui semblait ne se revêtir de tous ses attraits que pour les oiseaux et le soleil. La petite rivière de Lutschby, ornée de 2 épaisses franges de gazon, s'échappait des profondeurs d'un vallon mystérieux et descendait avec un bruit charmant vers un horizon de collines où elle se perd dans l'abîme nommé le Gouroul. C'est une des merveilles de l'Inde. La rivière de Lutschimi arrive par une pente insensible à la gueule énorme du Gouroul. Elle se détache en nappe verticale d'azur et tombe dans un gouffre d'une profondeur inconnue. Aucun bruit n'accompagne cette immense chute d'eau qui éteint son fracas dans les entrailles de la terre et ne le fait pas remonter aux oreilles humaines. Seulement, une trombe de fumée s'élève de l'abîme et semble plutôt appartenir à un soupirail des feux infernaux qu'à l'écume d'une cataracte brisée dans de ténébreuses horreurs. C'est avec une sorte d'épouvante qu'on découvre cette prodigieuse masse d'eau qui s'écoule en silence et ne réveille aucun écho, ni dans sa tombe, ni sur les flancs escarpés du mont Goala. À l'autre bout du gouffre, la terre, n'étant pas tourmentée par le tranchant de la cataracte, se hérisse d'un incroyable luxe de végétation. Elle jette horizontalement des arbres sauvages qui semblent vouloir faire par imitation une cascade de verdure et combler leur moitié d'abîme avec des masses flottantes de rameaux échevelés. Le signal de halte fut donné sur les bords de la rivière de Lutschmi. La caravane avait fait environ 10 lieues. Les péons préparèrent le repas et mirent le couvert sur le gazon. Mounoussami détacha 3 éclaireurs habitués à flairer le tigre comme les chiens le cerf. Et la première fin assouvie, on plaça des sentinelles comme en pays ennemi, et chaque chasseur, s'abritant dans une fraîche alcôve de verdure, usa de la permission qui lui était donnée de se reposer ou de dormir en attendant le cri indien du réveil. Le soleil avait fait un peu moins des deux tiers de sa course lorsque les chasseurs remontèrent à cheval. C'était l'heure que les Indiens jugent la plus favorable pour la chasse au tigre. Les éclaireurs venaient d'arriver et Munuma Sami, après avoir écouté leur rapport, établit son plan d'attaque. Il donna ordre à 10 péons d'envahir par un long détour les gorges de Ravana, toutes peuplées de tigres, et de pousser le formidable gibier dans le vallon opposé de Lutchmi, où les autres chasseurs devaient s'embusquer derrière un épais rideau de cocotiers. Les péons lièrent leurs chevaux à des arbres, et après avoir frotté avec des fleurs de tulipier leurs pieds nus, durs comme du bronze et souples comme des griffes d'aigle, ils s'élancèrent de la plaine aux corniches saillantes des gorges de Ravana. De ces hauteurs inaccessibles, les yeux du péon plongeaient sur les épais buissons de lianes et de houx qui recélaient la famille des monstres du Bengale. Et quand une tête énorme de tigre effarouchée s'allongeait avec des contractions de rage par-dessus les feuilles et flairait l'air où passait quelque ennemi, aussitôt d'énormes blocs de rochers pleuvaient en 1000 éclats sur l'alcôve révélée, et la famille bondissait à découvert en poussant d'un rugissement d'alarme qui pénétrait les plus secrètes tanières des gorges de Ravana. Les tigres, comme tous les animaux d'un naturel intraitable, vivent seuls et ne fraient jamais avec leurs voisins. Les mâles se font une guerre acharnée à l'époque de leurs amours, mais dès qu'ils sont établis convenablement, ils s'accordent une trêve et se contentent de se saluer de loin par une effroyable contraction de narines lorsqu'ils vont à la curée ou à l'abreuvoir. L'instinct de la conservation et de la propriété, les obligeant à veiller sur les domaines que la nature leur donna et qu'ils doivent transmettre intacts à leurs enfants, ils suspendent soudainement leurs inimitiés pour repousser l'ennemi commun lorsque l'homme les menace d'une expropriation. Alors là, ils forment une alliance momentanée qui finit avec le danger. Telles sont les mœurs des tigres du Bengale, les plus beaux animaux de la création, n'en déplaise à l'homme orgueilleux, habillé par Ouman. Clerps et Gabriel, embusqués comme les autres chasseurs à l'entrée du vallon de Lutchvi, sentirent frissonner leurs cheveux comme si un accès de froid polaire les eût saisis brusquement. Voilà les tigres! s'écria Mounoussami. Une pâleur mortelle couvrit une douzaine de visages européens. Gabriel et Clerps soutinrent dignement l'honneur de leur nation. Ils caressèrent leurs chevaux, dont les oreilles s'allongeaient démesurément et qui soufflaient un ouragan par les narines. Ils examinèrent l'amorce de leur carabine et coururent se placer à côté de Mounoussami. L'Indien leur tendit la main et les félicita par un geste sur leur bonne contenance. Je ne reconnais pas mes chevaux de chasse, dit Mounoussami. Ils trempent comme des gazelles. Goulab et Mirepour gardèrent un visage impassible et ne parurent pas remarquer le regard accusateur que leur lançait l'Indien. Est-ce vous, Goulab, qui avez choisi les chevaux? dit Mounoussami. Goulab fit un signe négatif. Et est-ce vous, Mirepour? Même signe négatif. Krebs lança un coup d'œil rapide à Gabriel. Les yeux noirs de Mounoussami rayonnèrent comme deux tisons qui s'enflamment. Il ne soupçonnait plus la trahison, il la tenait évidente dans ses mains. Malheureusement, il fallait songer à se défendre contre des ennemis bien plus terribles que les deux Indiens. Un tigre énorme, vomi des gorges de Ravana, traversait la plaine qui ne lui offrait aucun abri et se dirigeait vers la vallée de Lutchmi. Il traçait dans l'air à chaque bond une ellipse immense et l'œil fasciné du chasseur qui embrassait à la fois 20 de ses bonds, tant ils étaient rapides, croyait voir un pont de tigre à 20 arches former et disparaître à l'instant. Le monstre s'arrêta tout à coup à 100 pas du rideau de verdure qui cachait les ennemis et poussa un miaulement sourd, semblable au son prolongé de l'orgue qui s'éteint dans les tons graves. Sa peau d'un fauve doré rayonnait au soleil comme un manteau de brocart vénitien veiné de bandes d'ébène. Ses quatre pattes tendues au raccourci se balançaient sur leurs jointures. Sa queue horizontale ondulait comme un serpent, et la rude peau de son mufle, retirée vers les yeux par une contraction furieuse, laissait à découvert ses dents d'ivoire aiguisées comme des poignards. Les hennissements que poussaient les chevaux ressemblaient à des plaintes articulées sortant de poitrines humaines. Leurs crinières s'agitaient comme des tresses de couleuvres vivantes. Les cavaliers luttaient avec eux pour les retenir immobiles sur le terrain. Mais du côté des hommes, la force s'épuisait. Et du côté des animaux, la terreur, arrivée au comble, n'écoutait plus l'ordre muet de la bride et de la main. La carabine de Mouzoumassi s'abattit et fit feu. Le tigre poussa un cri rauque, il se dressa sur ses pattes de derrière, et avec ses pattes de devant, il saisit son mufle et le secoua vivement, comme pour en arracher la balle qui venait de l'atteindre. Puis il s'étendit à plat ventre et rampa comme un boa en frottant avec rage son mufle contre le gazon. Et se relevant encore de toute sa hauteur, il se lança par bonds désespérés vers les roseaux de la rivière de Lutchmi. Blessé, blessé! S'écria Moulousami. Et il précipita son cheval dans la direction du tigre, ses pistolets à la main. Au même instant, deux autres tigres tombaient au vol des gorges de Ravana. Les cavaliers européens ne purent maîtriser davantage leurs chevaux. Ils furent emportés sur la route de Tinnevelly avec toute la furie d'élan que le délire et l'effroi donnaient aux pieds de ces animaux. Clerps et Gabriel sautèrent courageusement à terre pour ne pas abandonner Mounoussami. Goulab et Mirepoux suivirent au galop les Européens, et tous ces déserteurs disparurent en un clin d'œil dans les bocages de l'horizon méridional. Gabriel et Clerps passèrent la rivière de Lutchmi, nageant d'une main et tenant de l'autre au-dessus du niveau de l'eau leurs carabines et leurs pistolets. Ils mettaient ainsi la petite rivière entre eux et les tigres et pouvaient secourir avec leurs armes l'Indien isolé sur l'autre rive et engagé avec ses formidables ennemis. Emporté par son ardeur, Mounoussabi courait toujours sur le tigre blessé et il atteignit à peu de distance du Gouroul. Le monstre reçut là le coup de grâce. Il expira en déchirant le gazon avec ses dents. Mounoussabi se retourna et se vit seul. Gabriel et Clerps, privés du secours indispensable que donne le cheval dans cette terrible chasse, n'avaient pris conseil que de leur courage en se faisant piéton pour venir en aide à l'intrépide Nabab. Mais en suivant la rive gauche du Lutchmi, ils rencontrèrent dans les accidents du terrain marécageux et entrecoupé de ravins des obstacles insurmontables. En cet endroit, la rivière était profondément encaissée et si rapide qu'ils ne pouvaient la traverser sans s'exposer à une mort certaine. D'ailleurs, quel secours aurait-il pu donner en se replaçant sur l'autre rive, lorsque de nouveau et de plus terribles rugissements, multipliés par les échos, leur annonçaient que les gorges de Ravana semblaient vomir toute la population féline en Bengale. Nos deux voyageurs, excités par une curiosité poignante, grimpèrent sur un arbre qui dominait ces solitudes, et Clerps, arrivé le premier au dernier échelon de l'observatoire végétal, dit à Gabriel, en lui montrant un horrible troupeau de monstres fauves veinés de noir: Eh, mon ami, croyez-vous au tigre maintenant? Ils passeront la rivière, dit Gabriel en plaçant sa carabine et ses pistolets en affût dans les branches de l'arbre. Non, je les en défie. Là, devant nous, la rivière paraît calme, mais c'est un torrent. Mais l'Indien, où est-il? Sir Edward, regardez là-bas, au midi. Ce sont les péons qui ont repris leurs chevaux cachés dans le bois et qui nous abandonnent aussi comme les autres. Eh mon Dieu, je l'avais prévu, ils ont déchaîné les tigres contre Moulusami et maintenant leur métier est fait, les lâches. Un cri de désespoir, un cri surhumain et corrosif comme un tam-tam, un cri impossible à noter et qui semblait sortir de la poitrine d'un colosse de bronze animé dans un rêve, remplit ces solitudes et leur donna soudainement un caractère inexprimable de désolation. L'Indien avait poussé ce cri. Il venait de voir se consommer la trahison dans la fuite des péons, ses domestiques. Il se trouvait seul avec trois coups de feu dans la main, devant une meute de tigres qui tombait des montagnes en bondissant, comme un torrent animé dont chaque vague aurait eu des yeux de flamme, des dents d'acier et une tempête de rugissements. Clerps et Gabriel découvrirent alors le malheureux Indien qui sortait d'un massif d'arbres et poussait vigoureusement son cheval vers des roches sombres qui fermaient l'horizon comme un rempart. Oh! s'écria Gabriel, il faut le secourir à tout prix. Et il allait s'élancer au pied de l'arbre. Clerps le retint d'un bras vigoureux. Mon ami, lui dit-il, voici la nuit. Il nous faut 1 heure pour atteindre Mounoussani en passant sur les corps de 20 tigres. Voulez-vous tenter le coup? Dites oui et je tombe de l'arbre avant vous. Gabriel prit ses cheveux noirs à 2 mains et ne parla plus. La nuit, qui descend toujours si vite dans ces régions équinoxiales, arrivait avec ses horreurs. À la deuxième teinte du crépuscule, nos deux voyageurs assistèrent aux efforts suprêmes de l'Indien. La meute des tigres le suivait au vol, et lui, arrivé au rempart de rochers, se dressa debout sur son cheval comme pour l'escalader à l'aide de ses ongles de fer. Retombé sur sa selle, il lança de nouveau son cheval sur le chemin escarpé qu'il avait parcouru. Et profitant d'un moment d'effroi que 2 coups de pistolet tirés sur les tigres venaient de leur donner, il les sillonna comme un vent et atteignit sans blessure les rives du fleuve. Aussi leste que son cheval, les plus agiles tombèrent en même temps sur les roseaux de Loutchmi. L'Indien, désarmé, sentit bientôt leur souffle ardent à ses pieds nus. Debout comme un écuyer du cirque sur le dos de son cheval, il lutta quelque temps encore en meurtrissant avec le bois de fer de sa carabine les mufles béants allongés vers lui. Le cheval ensanglanté bientôt et déchiré sur sa croupe par des dents furieuses, emporta son maître du côté de l'abîme du Gouroul. Les tigres se réunirent tous pour donner un dernier assaut. Le cheval chancela sur ses jarrets brisés. L'Indien vit 12 gueules enflammées s'entrouvrir, et du haut de sa salle qui s'écoulait sous lui, il s'élança dans le goule au milieu des ténèbres de la nuit et de l'abîme.